En dépit des appels à la désescalade lancés en particulier par l'Union européenne, la Turquie a annoncé dimanche qu'elle allait prolonger ses recherches de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Un navire de forage déployé au large de Chypre depuis plusieurs mois mènera des recherches au sud-ouest de l'île entre aujourd'hui et le 15 septembre, tandis que le navire de recherche sismique déployé la semaine dernière entre Chypre et la Crète et escorté par des bâtiments de guerre doit poursuivre ses opérations jusqu'à dimanche. Il est donc ici question de gaz, mais aussi de vieux contentieux réactivés sur la délimitation des eaux territoriales, des zones économiques exclusives. Il est question de géostratégie, de politique intérieure, d'influence régionale, le tout dans une zone instable. Voilà sans doute ce qui fait dire à l'Union européenne que la situation est préoccupante. Et voilà qui nécessite de prendre le temps d'essayer de comprendre. Deux invités avec nous ce matin. Marc Pirini, bonjour.
Bonjour.
Ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie, vous êtes chercheur au Centre Carnegie de Bruxelles. Et Thierry Brosse, bonjour.
Bonjour.
Professeur à Sciences Po, spécialiste des problématiques énergétiques. Vous avez notamment travaillé dans la sécurité du pétrole et du gaz au sein de la Direction générale des matières premières, aujourd'hui Direction générale de l'énergie et du climat. Merci à vous deux d'être avec nous. D'abord, Marc Pirini, expliquez-nous la toile de fond. C'est donc un contentieux ancien entre la Grèce et la Turquie sur les zones de souveraineté en mer, les frontières maritimes.
Absolument. Vous venez de le rappeler de façon tout à fait exacte. Il y a le plateau continental, il y a la zone économique exclusive. Sur tous ces sujets, le litige avec la Grèce est tout à fait ancien. Il date d'ailleurs de bien avant l'arrivée au pouvoir de l'AKP et de M. Erdogan en 2002 et 2003. Donc, la situation juridique aujourd'hui, les frontières existantes sur la mer Égée et la Méditerranée sont contestées par la Turquie. La Turquie n'est pas signataire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et donc, il n'y a pas de support juridique pour pouvoir discuter de cette question. Ce que la Turquie vient de faire dans les derniers mois, c'est deux choses. D'une part, vous l'avez dit, envoyer des navires de recherche et des navires de forage, escortés par des navires militaires, dans des zones qui ne sont pas juridiquement la propriété de la Turquie. Et deuxièmement, elle a fait un accord avec la Libye pour créer une zone tout à fait artificielle. C'est un peu un mouvement que j'appellerais unilatéral, puisque la Libye, le gouvernement de Tripoli, plus exactement, est préoccupé par beaucoup d'autres choses. Donc on a un peu forcé la main à M. Sarraj en échange d'un accord de protection militaire, qui est une toute autre problématique, mais qui évidemment a sauvé le gouvernement d'accord national qui était en quelque sorte au bout du rouleau. Donc, si vous voulez, la technique est très simple. Quand la Turquie n'aime pas les règles qui s'imposent à elle, qui s'imposent à la communauté internationale, elle en crée d'autres. Donc on est à l'inverse de la culture politique de l'Union européenne ou de l'Occident en général. C'est-à-dire, au lieu de se prêter à une contestation formelle et une discussion autour d'une table, eh bien, on établit par la voie juridique des réalités unilatérales nouvelles et ensuite on essaye de la mettre en œuvre par la force avec des moyens militaires.
Alors pour rester encore un instant sur ce contentieux sur les frontières maritimes, Marc Pirini, il faut parler peut-être de cette île de Castello Rizzo au large de laquelle ont lieu les tensions des derniers jours et qui est donc une île grecque mais toute proche des côtes turques. Et c'est autour de cette question, en fait, que se fait le conflit.
Oui, en effet, le chapelet d'îles grecques qui longe la côte turque à des distances tout à fait minimes, moins d'un kilomètre très souvent, s'arrête à l'île de Rhodes, et puis il n'y a plus rien jusqu'à la République de Chypre, sauf cet îlot que vous venez de mentionner, Castello Rizzo, qui lui est à même pas 500 mètres du rivage. Mais du coup, du fait que dans le droit international, une île a droit à un plateau continental, la Turquie se trouve en quelque sorte enfermée, se considère enfermée par la présence de cet îlot dans une zone grecque qu'elle trouve excessive. Alors là, il y a, si on regarde une carte, il y a matière à discussion, bien évidemment. Ce n'est pas tellement, et la Grèce a dit qu'elle était prête à discuter, Chypre a dit qu'ils étaient prêts à discuter, donc ce n'est pas tellement la revendication en elle-même, mais la méthode qui fait outrage aujourd'hui. Par ailleurs, l'autre zone contestée, c'est évidemment tout autour de Chypre, puisque, comme vous le savez, depuis 1974, l'île est divisée en deux. Le nord, que la Turquie appelle République turque de Chypre du Nord, qu'elle est le seul pays à reconnaître, est entrée dans des discussions sur un règlement global. Ces discussions n'ont jamais abouti jusqu'à présent. Et donc, par définition, par ricochet, la propriété, le droit d'attribuer des permis de forage autour de l'île sont évidemment contestés par la Turquie, qui a envoyé à plusieurs reprises des navires.
Alors, si l'on revient donc dans cette zone entre la Crète et Chypre, la semaine dernière, selon Athènes, la Turquie a donc violé les frontières maritimes grecques, puisque les bâtiments turcs étaient proches de cette fameuse île de Castelorizo. Que vient chercher ici la Turquie, Thierry Bros, dans cette zone-là précisément? Il est question de recherche d'hydrocarbures. On en est au stade de la recherche, c'est ça?
Absolument, oui, effectivement, on a découvert dans cette Méditerranée orientale de grands champs gaziers. Alors, pas des champs immenses, mais de grands champs. Et effectivement, l'intérêt, c'est la monétisation de ces champs pour pouvoir produire ce gaz et le vendre. Mais l'ambassadeur vous a expliqué simplement une situation très compliquée. La façon dont je regarde les choses est un axe un peu différent, puisque quand on va chercher du pétrole ou du gaz, il faut ensuite le produire. Et là, vous avez un pas de temps qui est souvent la décennie. Et vous avez un pas de financement qui est souvent la dizaine de milliards de dollars. Et donc, effectivement, il y a la volonté turque, et l'ambassadeur vous l'a rappelé. Et puis ensuite, il y a, est-ce que les financements peuvent arriver dans cette zone-là? Et là, je suis assez peu optimiste. Quand on regarde ce qui s'est passé dans cette zone-là, c'est-à-dire dans la zone élargie à l'Égypte, au Liban et à Israël, on voit bien que les seuls champs qui ont été mis en production, puisqu'après, vous ne gagnez de l'argent que quand vous mettez votre champ en production, c'est finalement en Égypte ou en Israël. Et donc, on voit bien qu'effectivement, ce sont de gros champs. Grosso modo, pour faire très simple, les trois derniers champs qui ont été mis en production, Zohr en Égypte, Léviathan et Tamar en Israël, produisent ce que la France utilise en gaz, ou produisent ce que la Turquie utilise en gaz, puisque la Turquie et la France utilisent à peu près les mêmes niveaux. Mais, encore une fois, votre pas de temps, c'est la décennie, et votre pas de financement, c'est la dizaine de milliards de dollars, et je crois que le forage, encore une fois, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est de 10 à 100 millions de dollars ou d'euros.
Donc là, on est effectivement dans cette zone autour de Chypre, la Syrie, Israël, le Liban, où il y a effectivement des champs qui sont déjà exploités. Et d'autre part, entre la Crète et Chypre, on est là à un moment encore d'exploration. Et c'est donc ce que fait la Turquie en ce moment. La question, c'est pourquoi ce regain de tension récent. Fin juillet, l'Allemagne, et on reviendra plus tard sur son rôle, mais avait réussi à apaiser les choses. Qu'est-ce qui fait que c'est reparti de plus belle la semaine dernière, Marc Pierini?
Bien, je dirais que c'est tout simplement, mais ça dure depuis plusieurs mois sous diverses formes, la situation politique très délicate du président turc et de son parti. L'économie est en berne, ils viennent de dépenser en quelques semaines 65 milliards de dollars pour défendre la livre turque sans aucun résultat, puisqu'évidemment les politiques économiques ne sont pas les bonnes, la politique de taux d'intérêt n'est pas la bonne, et en plus il y a une série d'opérations militaires risquées, en Syrie, en Libye, plus les tensions avec la Turquie, ça n'encourage pas les marchés financiers comme vous pouvez l'imaginer. Et donc il y a eu des revers très importants. Volkswagen, par exemple, a annulé un investissement de 1,3 milliard pour une nouvelle usine de voitures, etc. Ça, c'est le côté économique. Sur le côté politique, c'est très simple. Le président Erdogan et son parti, depuis 17 ans, avaient le monopole politique. Et ça a commencé à s'éroder avec le coup d'État manqué, de juillet 2016, puis la mise en place par le président Erdogan d'un système présidentiel tout à fait exclusif que, en sciences politiques, nous appelons tout simplement une autocratie. Ce qui va de pair avec l'élimination de l'état de droit, la domestication de la justice, l'élimination des médias, etc. etc. Et ceci, on voit bien qu'une grande partie, y compris dans des sondages qui sont sortis hier, de la population turque, n'approuve pas ce cheminement. Donc, le président turc a dû rentrer dans une alliance entre son parti, l'AKP, dont il est président, et les nationalistes du MHP, et même ça, ça produit quelque chose autour de 40-42% s'il y avait des élections législatives aujourd'hui. Le président a toujours, personnellement, un taux d'approbation qui est peut-être autour de 50%, mais quand on demande les intentions de vote, ça tombe à 40% aussi, et son parti à autour de 35%. Donc, c'est catastrophique. C'est pas catastrophique dans l'immédiat, puisque les prochaines élections présidentielles et législatives sont en juin 2023, mais il faut bien voir que ce sont les élections que ce président ne peut pas se permettre de perdre. Pourquoi ? Parce que c'est le centenaire de la République en 2023. Et donc, la rivalité que le président turc a avec Atatürk, fondateur de la République il y a 100 ans, ou presque, ça se joue en 2023 avec les commémorations.
Mais donc c'est avec des visées intérieures que Erdogan mène ses opérations en Méditerranée?
Oui, le litige sur les frontières maritimes existait. L'appétit pour trouver du gaz et se débarrasser un peu de la dépendance envers la Russie, ça existe aussi. Tout ceci a relativisé, puisque des investissements, comme le professeur Bro vient de le dire, c'est colossal. Et ensuite, le marché du gaz lui-même se transforme. Le LNG révolutionne un peu la question des pipelines, etc. Donc, il y a cet aspect-là. Mais comme partout ailleurs, la politique intérieure est le déterminant fondamental. Le président veut à la fois faire diversion par rapport à une catastrophe économique qu'il a sur les bras et par ailleurs entretenir la flamme nationaliste et donc son alliance dans un narratif qui est très simple. C'est « Regardez, nous sommes attaqués de toutes parts ». Et la théorie du complot en Turquie, c'est une grande chose. C'est enseigné à l'école pendant 10 dizaines d'années. Et donc, vous avez besoin d'un président fort. C'est ça la logique qui est en jeu aujourd'hui.
Thierry Brosse, vous êtes d'accord avec ça? Vous dites aussi qu'on n'est pas dans, comme on peut le lire parfois, une guerre du gaz, que ce n'est pas ça qui est en jeu, finalement, fondamentalement.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec monsieur l'ambassadeur. C'est à destination de ses électeurs. Et encore une fois, la Turquie, au niveau gazier aujourd'hui, est 100% dépendante. Alors, comme l'a rappelé monsieur l'ambassadeur, c'est du gaz russe pour 70% et du gaz naturel liquéfié pour 30%. Et donc, dans un marché qui est en croissance et dans un marché européen dont on pense que la demande gazière va pas augmenter, il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, clairement, la Turquie achète son gaz moins cher que ce qu'elle le produirait si elle arrivait à le produire en offshore profond en Méditerranée. Donc, c'est pas du tout pour ça.
Et d'autant que ce que vous dites aussi, c'est que au-delà des coûts, il y a une question de sécurité aussi pour les compagnies qui pourraient éventuellement être intéressées. Ça coûte très cher, vous l'avez dit, ce sont de très lourds investissements et donc on n'investit que si on est sûr que ça vaut le coup. Et en l'occurrence, justement, les questions de sécurité dans cette zone ne sont absolument pas suffisamment rassurantes pour ces compagnies.
Absolument, c'est pour ça que je vous ai donné les exemples, les contre-exemples, ces champs-là qui ont été produits, parce qu'effectivement, vous étiez dans des zones qui appartenaient à des gouvernements dont on avait une sécurité qu'on peut qualifier de constance, c'est-à-dire que le gouvernement allait vous garantir que vous pourriez exploiter votre ressource et être rémunéré. C'est le cas en Égypte, c'est le cas en Israël. Dans cette zone-là qui est contestée, vous ne savez pas d'abord à quel gouvernement vous devez vous référer, et ensuite, que va penser le gouvernement? C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que effectivement la Turquie a vraiment besoin de gaz? Oui. Est-ce qu'elle a besoin de son gaz? Encore une fois, c'est une question économique et c'est pas sûr. Et de l'autre côté, l'Union européenne, les champs à Chypre, on n'en a pas forcément besoin, puisque encore une fois, ça va coûter très cher. Et le Green Deal européen est plutôt quelque chose qui veut sortir des énergies fossiles.
Oui, voilà. Par ailleurs, politiquement, on n'est pas trop censé aller dans cette direction aussi. Marc Pirini, donc on a parlé de la Turquie et effectivement de la grande part qu'il faut sans doute accorder à la politique intérieure dans ce qui se passe en ce moment. Mais tout de même, on voit aussi qu'il y a d'autres acteurs qui sont engagés dans cette affaire. Et justement, quel est un peu l'état des alliances et dans quelle mesure la Turquie est-elle, comme on le dit, isolée ?
Alors, si vous écoutez le discours officiel turc, la Turquie n'est pas isolée du tout. Mais en effet, elle est confrontée de tous côtés, dans des configurations qui sont extrêmement bizarres par rapport à l'histoire contemporaine, à des difficultés. Elle est en Syrie, alliée en partie avec la Russie, mais la Russie tape très fort sur les troupes turques comme fin février quand elle dépasse ses lignes rouges. Elle est impliquée en Irak du Nord, sans l'accord du gouvernement irakien. Il y a d'ailleurs eu des incidents la semaine dernière. Et elle est impliquée, bien sûr, en Libye. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le discours nationaliste qui permet au président, ou qui lui semble permettre, disons, de maintenir sa maîtrise de la politique intérieure, il y a un discours qu'ils appellent la conquête. La conquête en termes turcs, c'est 1453, la conquête d'Istanbul. Et donc, il y a une référence constante à cette nouvelle Turquie qui n'a plus besoin d'être exclusivement dans le camp occidental et dans l'OTAN, qui a plusieurs options à sa disposition et qui va reconquérir sa liberté et sa puissance. Et il faut bien voir que ça s'accompagne d'un développement assez extraordinaire de l'industrie militaire turque. Elle produit actuellement un porte-hélicoptère que nous appellerions de type Mistral en France, qui sera opérationnel l'année prochaine avec l'aide de l'Espagne, puisque c'est un modèle qui existe dans la marine militaire espagnole. Elle produit 6 nouveaux sous-marins avec l'aide de l'Allemagne, puisque la motorisation est allemande. Elle produit de nouvelles frégates et surtout, elle vient de tester pour la première fois il y a quelques semaines un drone armé de haute altitude et longue endurance, comme dit le sigle militaire. C'est un engin qui peut voler à 15 000 mètres d'altitude pendant 3 jours et qui transporte des munitions. Ce n'est produit que par les États-Unis, la Chine et Israël. Aujourd'hui, la Turquie devient un producteur de cet engin-là que aucune des forces européennes, sauf la France et le Royaume-Uni, n'a, et encore l'ont-elles acheté aux États-Unis. Donc, vous avez à l'horizon 2021-2022 un accroissement considérable de la puissance militaire turque que, bien entendu, le président Erdogan utilise à son profit, puisqu'il peut aujourd'hui faire des opérations qu'il ne pouvait pas se permettre il y a quelques années, et il pourra l'année prochaine faire encore plus. Alors, quand vous voyez la Turquie en Libye aujourd'hui, dans l'ouest libyen, elle est très contrainte parce qu'elle ne peut pas fournir une couverture aérienne à une éventuelle opération terrestre. C'est trop loin. C'est possible, mais extrêmement compliqué et risqué. Par contre, elle peut agir avec des drones et c'est comme ça qu'elle a sauvé Tripoli au profit du gouvernement de M. Sarraj.
Alors, concernant la Turquie et la Grèce, il faut rappeler que les deux sont membres de l'OTAN. On a entendu des déclarations menaçantes de part et d'autre ces derniers jours. En quelques mots, avant la pause et le journal, Marc Pirini, y a-t-il réellement un risque d'escalade au-delà du verbal ?
Alors, il y a l'escalade verbale, il y a l'escalade militaire, naval, que les marins militaires appellent français de l'atoll. Ça s'est produit des dizaines de fois dans le monde. Ça se produit très régulièrement entre les deux Corées, comme chacun sait. Ça s'est produit il y a quelques jours entre une frégate grecque et une frégate turque. Bien entendu, les versions diffèrent, etc. Il y a eu l'incident en juin, le 10 juin, avec la frégate Courbet, dans le cadre d'une opération de l'OTAN sur l'embargo libyen. Le risque n'est pas tellement d'une confrontation généralisée, mais que ces rodomontades militaires, ces navires qui coupent la route à un autre pour affirmer la puissance, un jour, par accident, peut-être pas par accident, dégénère dans une catastrophe et tout d'un coup, il y a un navire qui coule et vous avez 100 ou 200 morts. Ça, c'est ce qu'il faut évidemment absolument éviter, d'où l'appel il y a 2 jours de l'Union européenne à la Turquie de revenir à la table et l'action de l'Allemagne elle-même. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que la logique du président turc, c'est la disruption, c'est la volonté d'aller à l'encontre des méthodes traditionnelles. Et donc, le fondement de tout cela, c'est que dans le contexte nationaliste actuel, dans la maîtrise que le président Erdogan a sur les médias, on peut présenter tous ces incidents comme des victoires turques. C'est ce qui s'est passé le 10 juin, c'est ce qui s'est passé il y a 2 jours. Et vous voyez sur Twitter des tsunamis de messages triomphants, etc. Personne ne peut s'y reconnaître, naturellement, et on n'avance pas. L'OTAN ne peut pas régler, ne peut pas laver son linge sale en public. L'Union européenne n'a pas réussi à convaincre la Turquie de s'asseoir à la table. Peut-être ça devra être un pays neutre comme la Suisse, on verra. Mais ce qui est clair, c'est que la stratégie de disruption ne marche pas et que la solidarité de l'Union européenne avec la Grèce reste totale. Donc, pour le moment, Erdogan se heurte à un mur.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Et nous retrouvons nos invités, Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'UE en Turquie, chercheur au Centre Carnegie de Bruxelles, et Thierry Broz, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques, pour tenter de comprendre cette escalade en Méditerranée orientale, opposition entre la Turquie et la Grèce, mais avec une multitude d'autres acteurs. Nous avons parlé avant 8h du contentieux sur les délimitations des zones maritimes entre les deux pays, évoqué la question du gaz, pour le moment cherché par la Turquie dans cette zone entre Crète et Chypre, mais aussi de ces gisements découverts ces dernières années plus à l'est et qui intéressent différents pays. Je voudrais, Marc Pierini, que l'on parle de la France qui a renforcé dans ce contexte, donc la semaine dernière, sa présence militaire dans cette zone. Emmanuel Macron a dans le même temps dénoncé les décisions unilatérales de la Turquie en matière d'exploration pétrolière. Pourquoi cette position, cette réaction française ?
Donc, tout simplement parce que l'attitude, la méthode turque est parfaitement contraire à la politique française, mais européenne, de bon voisinage, qui donne la primauté au dialogue par rapport au conflit, alors que le président Erdogan donne la primauté au conflit. Alors, on dit souvent l'Union européenne est divisée. Il est vrai qu'il y a des nuances dans les présentations, parce que les situations sont différentes. L'Italie et l'Espagne veulent continuer à faire des affaires avec la Turquie. L'Allemagne a bien sûr 3,5 millions de citoyens d'origine turque, donc elle est assez portée sur la conciliation. Mais je crois que ce que le président Macron a fait depuis maintenant 2 ans, c'est qu'il a compris que le président Erdogan n'est pas partisan de la conciliation et il donne toujours la primauté au conflit, il ne comprend que les lignes rouges.
Il fonctionne au rapport de force.
Absolument, absolument. C'est sa personnalité, c'est aussi la direction dans laquelle il est poussé par l'alliance avec les nationalistes à laquelle je faisais référence au début de votre émission, et c'est aussi ce que l'on voit dans les résultats maigre, mais quand même, obtenu par le président américain pour la libération d'un pasteur, etc., etc. Bien. Donc, quand on menace, quand on formalise des lignes rouges, la Turquie comprend. Ce qui est clair ici, c'est que on ne peut pas arriver à une concession envers la Turquie, même si on l'a trouvé parfaitement justifié, ou si on trouvait un mi-chemin, un compromis quelque part, pour agrandir la zone maritime de la Turquie, on ne peut pas y parvenir, comme Europe, par la force, c'est-à-dire en se soumettant à la force de la Turquie. Ce serait nier les principes fondateurs de l'Union européenne, plus jamais de conflit et résolution des conflits par le dialogue et la négociation. Donc, ce que fait la France avec son aviation et sa marine, et elle peut faire beaucoup plus, évidemment, c'est d'exprimer une solidarité avec la Grèce, avec Chypre, et de formaliser des lignes rouges. Maintenant, on va voir si le président turc peut comprendre cette logique. Il a montré dans sa carrière politique qu'il était capable de faire beaucoup de demi-tours quand la situation était très compliquée. On va voir. Mais ce que l'on a constaté depuis quelques mois, pas seulement sur la mer, mais aussi l'opération paramilitaire utilisant des réfugiés contre la Grèce et en essayant de les faire rentrer de force, aidés par 1000 forces spéciales de la police turque, on ne voit pas vraiment une volonté de conciliation. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, notamment au vu de l'état du marché du gaz, qu'évoquait le professeur Brault tout à l'heure, est-ce que M. Erdogan est véritablement motivé par la question gazière? À mon avis, il est plus motivé d'abord par l'affirmation de souveraineté, mais il est surtout motivé par le litige. Et a-t-il un intérêt à court terme à une solution? Je ne crois pas, parce que sa situation politique, comme je l'ai dit au tout début, est extrêmement difficile, la situation économique est catastrophique, et continuer de se projeter comme le sauveur dans une situation où la Turquie est, entre guillemets, agressée, c'est une bonne chose. Donc, le président turc a probablement un intérêt beaucoup plus grand, malgré les proclamations à l'opposé, à garder une situation de conflit pour se présenter comme le sauveur. C'est ça la grande difficulté.
Thierry Bross, Recep Tayyip Erdogan, motivé par le litige, c'est ce que vous pensez aussi?
Oui, enfin, je pense que ce qui a été dit est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on a tracé une ligne rouge, la France veut défendre cette ligne rouge, et je crois que ça c'est très important, parce qu'autrement Erdogan ne comprendra pas. Et pour ce qui est du gaz, c'est tout à fait accessoire. Encore une fois, aujourd'hui, le prix du gaz, c'est moins cher que le coût complet si on devait le produire en Turquie. Et puis, dernier point, on évoquait avant le journal le fait que la Turquie avait des compétences militaires, avait du matériel militaire. La Turquie a une société d'État gazière et pétrolière, mais cette société d'État gazière et pétrolière, elle ne fait pas d'exploration. Elle n'a jamais produit de pétrole et gaz. Donc effectivement, elle sait revendre, elle sait transporter, elle sait stocker, mais elle ne sait pas produire. Donc effectivement, je ne pense pas que ce soit un conflit gazier.
Alors, c'est ce que vous nous disiez effectivement déjà tout à l'heure, ça n'est pas un conflit gazier. Tout de même, concernant le gaz, il y a ce projet EastMed, projet de gazoduc avec un accord signé en début d'année 2020. Est-ce que vous pouvez nous en parler tout de même? Parce que ça existe aussi. Donc,
oui, alors, je vous ai dit, il faut une dizaine de milliards de dollars pour produire. Et puis ensuite, lorsque vous avez produit du gaz, contrairement au pétrole, il faut l'apporter au consommateur. Et pour l'apporter au consommateur, vous allez avoir besoin soit d'un gazoduc, soit d'une usine de liquéfaction, c'est-à-dire de mettre votre gaz sur des bateaux. Et ça encore, ça va vous coûter 10 milliards de dollars. Et encore une fois, je pense que c'est une vision un peu passéiste de ce conflit. Aujourd'hui, les pipes, c'est plus trop d'actualité, parce qu'un pipe, ça va lier définitivement pour le long terme une zone de production avec un consommateur. Et vous avez dans l'actualité des pipes qui, effectivement, ne sont pas toujours les bienvenus. Et aujourd'hui, c'est un peu plus cher, mais ce que les États souhaitent plutôt faire, c'est de la liquéfaction. C'est un peu plus cher, mais ensuite, ça vous permet d'envoyer votre gaz vers où vous voulez. Et donc, effectivement, je ne suis pas un grand fan des pipes. Je pense que l'état des pipes est un peu passé.
Et donc là, pour dire quand même un mot de ce projet, donc EastMed, c'est un accord donc entre la Grèce, Israël et Chypre qui a été signé en début d'année pour un gazoduc de 2000 km en grande partie sous-marin qui irait donc des champs de Méditerranée qu'on a évoqués tout à l'heure à l'Italie. Vous ne lui voyez pas un grand avenir à ce projet?
Alors, moi je parle, quand je donne mon cours à Sciences Po, de ces pipes de présentation. C'est effectivement comment on relie le champ Aphrodite, puisque c'est de celui dont on parle, au consommateur. Et effectivement, eh bien, les cartésiens vous disent que, entre deux points, c'est la ligne droite, le plus court chemin. Encore une fois, vous allez encore avoir besoin de mettre vos 10, vos 15 milliards de dollars ou d'euros dans ce projet-là, et d'avoir la sécurité qu'en Italie, ce gaz va être consommé. Et ça, dans 20 ans, je ne suis pas sûr. Et donc, effectivement, je pense que c'est, encore une fois, plutôt un pipe de présentation. Et on en a eu d'autres. Hein. On a eu le Nabucco qui devait traverser la Turquie, qui n'a pas vu le jour. Donc, encore une fois, ça fait bien sur une présentation, si vous me permettez. Mais, encore une fois, qui va investir? La réponse est personne.
Marc Pierini, vous nous disiez tout à l'heure, voilà, sur le rapport de force, est-ce que ça apaise, est-ce que ça attise, est-ce que en l'état actuel des choses, le risque n'est pas d'avoir une zone de tension permanente finalement en Méditerranée, avec des moments comme ça où ça monte, puis ça se calme, mais un point de tension qui perdure dans un endroit du monde où tout de même c'est déjà compliqué.
Vous avez tout à fait raison dans le court et moyen terme, c'est-à-dire les 3 ans qui viennent, puisque l'élection présidentielle et la commémoration du centenaire de la République turque, c'est en 2023. Et bien entendu, dans sa trajectoire personnelle, le président Erdogan souhaite être au pouvoir et être le deuxième Atatürk, ou même plus grand qu'Atatürk lui-même. Donc c'est bien clair qu'il va vouloir garder le pouvoir par tous les moyens. Et là, on dépasse le cadre de notre discussion, bien entendu. Mais il supprime l'état de droit, il met tous les gens qui le dérangent en prison, il a fait licencier 150 000 personnes du secteur public, la presse n'existe plus, les juges sont aux ordres, l'affaire d'Osman Kavala est tout à fait emblématique, un opérateur culturel, un homme qui a consacrer sa fortune et sa vie au rapprochement avec les Kurdes, avec les Arméniens, etc. Ben, tout ça, ça dérange parce que le président Erdogan est dans une logique de confrontation, encore une fois. Et ce n'est pas la confrontation juste avec la Grèce ou avec la France, c'est la confrontation aussi avec les forces intérieures. Mais la nouveauté, c'est que, premièrement, le président Erdogan n'est plus entouré de qui que ce soit de crédible. Il a bien sûr son gendre, qui est le ministre de l'économie et des finances, mais qui est un personnage taxé d'incompétence par Wall Street ou la City de Londres. Et chaque fois qu'il parle, ça crée des remous sur la livre turque. Et puis c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Il y a eu des dissensions importantes dans son parti. 2 nouveaux partis ont été créés à partir de l'AKP par des personnalités plus crédibles. Et surtout, il y a aujourd'hui des alternatives du côté des sociaux-démocrates, avec M. Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul, et M. Mansour Yavaş, maire d'Ankara, qui sont tout à fait nouvelles et qui, dans les sondages publiés il y a 2 jours, l'emporteraient relativement aisément, mais bien sûr on est loin de l'élection, sur le président turc. Donc on est dans une situation nouvelle. Ce ne veut pas dire que la pertinence stratégique de la Turquie pour l'Union européenne diminue. Elle diminue certainement pour les États-Unis, parce que aux États-Unis, l'obsession désormais, c'est la Chine. Ce n'est plus la Turquie comme barrage à la Russie, mais elle continue de l'être pour l'Union européenne, parce que c'est notre voisinage, parce que la Turquie est la zone intermédiaire entre le sud-est de l'Union européenne et le Proche-Orient. Et parce que la Turquie joue désormais un double jeu. Un jeu dans l'OTAN, quand ça l'arrange, un jeu contre l'OTAN, quand elle pense que ça l'arrange, par exemple avec le déploiement des missiles S-400 russes, qui ont complètement chamboulé, si vous permettez l'expression, le mécanisme de défense antimissile de l'OTAN pour l'Europe. Donc, et l'incident maritime du 10 juin a montré que un jour, un navire de la marine turque ravitaille la frégate Courbet, parce qu'on est dans le cadre d'une procédure normale d'une opération de l'OTAN, mais 2-3 jours plus tard, une frégate turque illumine de son radar la frégate française. Donc, on est à la fois dedans et dehors. Et ça, il faudra bien clarifier à un moment.
Et on entend bien, en tout cas, la dimension intérieure, l'importance de cette dimension intérieure dans tout ce qui se passe en ce moment du point de vue de la Turquie. Merci beaucoup Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'UE en Turquie, chercheur au centre Carnegie de Bruxelles. Et merci à vous Thierry Brosse, professeur à Sciences Po, spécialiste des problématiques énergétiques. Merci à tous les deux de nous avoir aidés à y voir peut-être un peu plus clair, j'espère, à propos de ce sujet très complexe, on l'a compris. Il est 8h32.